Mardi 15 octobre, bonjour tout le monde. Avec nous aujourd'hui, de la presse, Jean-François Tremblay, Guillaume Lefrançois, et d'RDS et du 98.5, ancien Canadien également, Benoît Brunet, c'est Sortie de zone, 5e épisode. Comment allez-vous, les gars?
Très bien.
En pleine forme.
Super.
C'est ça qui arrive. Quand le Canadien gagne un match, là, il n'y en a plus de problème dans la vie. Hein? C'est ça la fin.
On va en trouver.
Je suis pas tellement inquiet. Les gars, on est mardi, donc contrairement à nos habitudes du lundi, c'est exceptionnel. On va revenir vendredi. Je le signale pour ceux qui commencent à s'habituer à nous écouter. Samedi, une victoire bon qui date déjà. Il y a déjà 2 jours de passé contre les Blues de Saint-Louis, les champions en titre. Est-ce que ça prouve quoi que ce soit une victoire contre un club comme celle du Canadien contre Saint-Louis ou encore Ottawa qui bat Tampa Bay? Benoît, je te le demande, t'es le seul qui a joué dans cette ligue-là où il y a des clubs qui prennent une journée off comme on dit.
Après avoir mal joué contre Détroit, c'est sûr que pour le niveau de confiance c'est bien. Mais au niveau du leadership de la chambre, tu pars pas en peur avec ça. Là. Chez Weber et Carey Price, ils ont pas sauté de joie là, pendant 3 heures parce qu'ils venaient de battre le club qui avait gagné la Coupe Stanley. Tu peux bâtir parce que ça va pas été bien dans le match précédent, mais il reste que pour moi, là, c'est un match en octobre. Pas beaucoup de matchs à jouer, l'échantillon est pas énorme. Tu le prends, t'es content. Les ajustements qui ont été faits pour ce match-là, moi je pense que ça a été payant pour l'équipe. Puis tu passes au prochain match le plus rapidement possible.
Il y a 5 matchs à jouer. Puis, corrigez-moi si j'ai tort, mais je vois pas encore de grandes tendances lourdes se dessiner en ce moment avec le Canadien. Donc, comme Benoît, je partirais pas en peur.
À court terme, comme ça, il y a des limites quand même à la portée de cette victoire-là. Par contre, si tu confirmes ensuite, si tu t'enchaînes avec d'autres victoires, ben là, cette victoire-là contre les Blues, quand on va regarder avec du recul, on va se dire, bon, ben OK, peut-être que là, il y a quelque chose qui a commencé à se bâtir, mais si tu perds les 3 prochaines, ben ça veut pas dire grand-chose.
J'ai pas ressorti des prédictions vendredi. Je suis le seul qui avait raison, ayant prédit une victoire du Canadien contre les Blues.
J'avais prédit, moi aussi.
Ah, excuse-moi,
oui,
Guillaume.
Oui, oui, oui.
Ben merci.
Mais j'avais dit 4-2. J'ai dit 4-2 Canadiens, j'avais été trop conservateur.
On est 2 Nostradamus, mais t'es le seul qui a vraiment réussi dans le fond, parce que moi, je dois dire, pour m'enlever un peu de crédit, que j'ai pensé que ça se rendrait en prolongation. Ah. Et ils en ont pas eu besoin. Ça s'est réglé en temps réglementaire. Mais moi, la seule tendance, t'as parlé de tendance lourde, effectivement, je vois pas de tendance dans ce début de saison-là, mais il y a une chose que j'ai vue samedi, et j'appuyais ma prédiction là-dessus vendredi, qu'on voyait souvent l'an passé, sauf pendant une petite période où là, ils sont tombés en plat, c'est quand le Canadien joue un mauvais match, ils rebondissent d'habitude. Bon, peu importe là, avec quoi ou quel genre d'effort Saint-Louis est arrivé. Je ne sais pas si tu es d'accord, plus ou moins d'accord, Jean-François, avec ça. Mais
le Canadien a montré, à mon avis, beaucoup de caractère au cours des dernières saisons. J'en parlais au dernier podcast, le Canadien, le nombre de fois qu'il est revenu de l'arrière, qu'il a gagné le match, même s'il tirait de l'arrière au début de la 3e période. C'est énormément de caractère. Alors, c'est vraiment plus de ce côté-là que je m'intéresse à l'équipe en ce moment.
Mais c'est un peu la même chose. Revenir dans un match ou rebondir au match suivant, il y a une capacité de dire, hey, c'est pas acceptable
derrière,
là, ce résultat-là.
Ouais. Puis de mettre derrière le négatif, ce qui est arrivé de mal auparavant, puis d'effacer le tableau pour de recommencer, comme on dit. Puis ça,
Moi, ce que j'ai aimé, Mario, si je peux me permettre, c'est qu'il y a eu du coaching, puis il y a eu de l'exécution de la part des joueurs. Tu sais, la petite rencontre au niveau du vidéo. Des fois, une rencontre comme ça peut être plus payante que sauter sur la glace et essayer d'aller corriger des choses sur la glace. Tu le corriges dans une séance vidéo, tu montres des côtés positifs, des côtés négatifs. Après ça, ça appartient aux joueurs de sauter sur la glace puis de faire le travail. Mais tu sais, c'était pas parfait le match de samedi. Premier but, Domi prend pas le bon gars, Mété était là, un 3-2, Braden Shen marque. Le deuxième but, un mauvais changement, Blais marque le deuxième but de la formation. Fait que c'était pas parfait. Mais au niveau des ajustements qu'on a apportés, moi j'ai trouvé que ça avait fait la différence dans ce match-là parce que les gars étaient plus impliqués, ils étaient prêts à travailler au niveau de l'exécution, la zone centrale, du côté offensif, défensif, les gars étaient solides. Le fameux pushback, là, la pression défensive d'un joueur, surtout que les Blues, c'est pas une équipe rapide. Moi, j'ai aimé ça. Fait que j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans le cas du Canadien, cette exécution-là, être capable d'être plus solide, parce que l'échange de marqué, messieurs, qu'il avait donné au cours des 4 premiers matchs, là, c'est astronomique. Là.
Après le match contre les Red Wings, Jeff Petrie, justement, pour rebondir un peu sur ce que Benoît a dit, m'avait expliqué que lui, comme défenseur, il levait la tête et les joueurs n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être. Ce que j'ai trouvé assez particulier, parce que c'est quand même tous des pros qui jouent au hockey depuis Mathusalem. Puis là, ils ont levé la tête. Là, faut que je trouve ma deuxième option. Ça me prend une seconde de plus. Alors, il y avait du sable dans l'engrenage un peu, parce que Benoît va être le premier à à le dire aussi, une sortie de zone dans la LNH, maintenant, c'est rendu très compliqué. Ça wheel beaucoup. On passe aux joueurs qui passent au centre. Et là, il faut que tout le monde soit à la même place. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition.
Oui.
Alors, s'il y a un joueur dans cette répétition-là qui n'est pas là où il doit être, bien, il n'y a juste pas de sortie de zone.
Moi, je serais curieux de t'entendre, Benoît, sur une chose. Tu parlais de la séance de vidéo de la semaine dernière. Ça m'a rappelé un commentaire de Ken Hitchcock. Il y a peut-être 2 ans, il avait dit ça. Le Canadien était à Dallas. Et puis, Ken Hitchcock nous disait, les ajustements en défense, tu fais ça sur de la vidéo. Puis l'ajustement offensif, il faut que tu le fasses sur la glace.
Absolument raison.
Je serais curieux de savoir, parce que c'est ça qui a été fait. Dans le fond, c'était de l'ajustement principalement pour le jeu défensif. Ouais. Ça a été fait par de la vidéo, puis ça a fonctionné.
C'est son ancien coach, Hitchcock, en passant.
Oui, je l'ai eu comme coach, puis Jacques Martin aussi. Puis j'ai eu plusieurs entraîneurs dans ma carrière dans la Ligue nationale. Puis une séance de vidéo aussi, il faut que tu trouves le moyen d'être positif puis d'être négatif au même moment.
Et là, le négatif en premier?
Non. Peu importe, mais... La chose la plus importante pour un joueur, et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, c'est qu'il faut que tu laisses ton ego à la porte. Parce que ça se peut que tu te fasses pointer du doigt dans une séance de vidéo, on me l'en dit. Hey, chum, c'est toi qui l'as pas fait.
Devant tout le monde.
T'es-tu toujours d'accord avec la lecture du jeu sur vidéo? C'est-à-dire, c'est-tu toujours évident ou des fois tu peux dire, ben non, mais l'autre était là, il est pas allé? Hein? Ça sert à quoi?
Ben non, oui, parce que si tu comprends puis tu laisses ton ego à la porte, tu vas l'accepter.
Ah, OK.
Pourquoi j'ai vu des gars aussi, là, au banc, là? Tu sais, je revenais après un but, puis moi, j'avais fait ma job d'allié, là. J'étais pas content, là. Mais quand le gars commence à dire, ouais, mais t'as pas, non, moi, je trouve pas d'excuses. Moi, quand je faisais une erreur, je laissais passer glisser mon défenseur derrière moi, puis il marquait, là. J'arrivais au banc, puis je disais, it's on me, c'est moi, là. Je le sais. T'as pas moyen de me le dire, mais il y en a des gars qui cherchent des excuses des fois. Fait que ça, c'est des fois touché pour les entraîneurs. Mais une séance de vidéo, j'ai toujours dit, pour répondre à la question aussi, c'est que enseigner à des gars à bien jouer défensivement, là, c'est la chose la plus facile au monde. Après ça, c'est de l'exécuter sur la glace. Enseigner à des gars à marquer des buts, des stratégies en avantage numérique, ça, c'est plus compliqué. Là, ça prend de la créativité puis de l'instinct.
Tu parles de stratégie, puis c'est drôle parce que je reviens au match de Saint-Louis et Montréal samedi. On a deux équipes vraiment différentes. Saint-Louis est une équipe dont le style rapporte beaucoup en fin de saison. On en a eu un exemple pas si lointain avec l'an passé, le remontée puis la Coupe Stanley. Puis c'est drôle, les gars je sais pas lequel des deux était dans le vestiaire samedi, mais parmi les commentaires qu'on entendait, c'est que le Canadien, la stratégie, puis on entend ça souvent contre ce type d'équipe-là, c'est d'être plus au centre de la glace. Et les Blues de Saint-Louis, c'est d'amener le jeu le long des bandes. Donc, c'est une autre preuve qu'il y a plusieurs saisons. C'est-à-dire qu'en début de saison, peut-être que battre Saint-Louis, puis je ne veux rien enlever au mérite du Canadien d'avoir battu Saint-Louis en fin de semaine, mais c'est pas encore des guerres de tranchées. Vous sentez-vous encore une ambiance de camp d'entraînement actuellement dans le jeu qu'on voit ici et ailleurs?
Peut-être pas de camp d'entraînement, c'est sûr qu'on n'est pas dans le jeu du mois d'avril. Ça, il n'y a aucun doute. Puis c'est peut-être là, justement, que ce type de victoire-là est peut-être plus accessible aux Canadiens là, contre des grosses équipes qui, rendues en avril, quand ça se referme, ça devient peut-être plus difficile de passer par le centre. Puis...
Il y a aussi le fait que les Blues de Saint-Louis, c'est un club qui est beaucoup plus gros physiquement que le Canadien. Oui. Je veux dire, le Canadien, même si on fait toutes les passes du côté de la rampe, puis on espère que que Max Domi puis Paul Byron vont gagner toute leur bataille à 1 contre 1 contre des gars de 6 pieds 3, ça arrivera pas.
C'est-tu plus facile d'amener le jeu le long des bandes, Ben, ou de garder le jeu dans le centre? Parce que j'essaie de me projeter dans 3-4 mois d'ici, quand il va y avoir des guerres de tranchées. Le club qu'on a sous les yeux en ce moment, est-ce qu'il va être capable de réussir ou il a un peu failli l'an passé au moment où ça comptait le plus?
Ça prend plus de courage d'aller dans le centre. Des fois, ça prend du courage pour aller le long des rangs aussi parce que tu sais que tu vas te faire assommer ou tu vas te faire frapper.
C'est vraiment intéressant, même surprenant, parce qu'on peut penser que c'est le long des bancs que ça fait plus mal, Benoît. Tu sais, vite fait, les gros blues sur le bon qui vont te travailler ça au corps puis qu'ils vont ressortir avec la rondelle. Non, c'est pas ça que tu dis, toi.
T'es capable de l'absorber. Tu vas l'encaisser. Habituellement, là, quand tu te fais pas pincer, là, parce que tu vas pas te gonner, là, t'es capable de te placer dans une position où ça va faire mal. Mais dans le centre, comme, quand Weber a frappé Sundqvist là en plein centre de la glace, ça peut faire pas mal plus mal. Fait que ça prend du courage pour aller là puis tenter de faire des jeux puis des fois garder la rondelle une fraction de seconde de plus pour dire je vais accepter la mise en échec puis là je vais faire ma petite passe soulevée puis mon gars va pouvoir aller la récupérer là. Ça prend du courage.
La notoriété canadien n'a pas le choix d'aller au centre parce que
il
gagnera pas ses batailles.
Il va rester prisonnier.
Donc il faut aller au centre, faut aller vite, faut faire des sorties de zone rapides. Le Canadien n'a pas le choix.
Il y a eu des ajustements. Tu parlais de coaching, Benoît, puis je suis content que tu en aies parlé parce que c'est assez drôle quand même les commentaires qu'on peut lire. Il y en a qui critiquaient. Tu sais, avant la victoire de samedi, le climat était déjà à la critique envers les cibles qu'on choisit, dont l'entraîneur Claude Julien, qui tout à coup, bon, a-t-il un style trop défensif? J'ai même vu des questions sur le potentiel de congédiement. Est-il un des gars sur la sellette? Écoute, le Canadien accorde 4 buts et plus par match, même après la victoire de samedi. Et dans le coaching auquel on a assisté, on a vu des ajustements faits avec les paires de défense. Guillaume, t'as observé des choses pas mal intéressantes. Statistiques à l'appui sur, par exemple, Chiarot, ce qu'il attendait comme commande samedi comparativement au premier match de la saison.
Ben, je pense que c'est le fait de jouer à domicile, tu sais, puis c'est ce que Claude Julien va pouvoir faire dans les semaines à venir quand le Canadien jouera à domicile. Ça va être de choisir ses confrontations pour Ben Chiarot et lui permettre d'affronter des joueurs de troisième et de quatrième trio, parce que là, le début de saison, on trouvait tous que Chiarot avait l'air lent. On savait que c'était pas... On savait que Ben Chiarot n'était pas un défenseur qui se distinguait par sa vitesse. On savait que c'était un défenseur plus gros, plus rude, fait pour jouer devant le filet. Mais il paraissait vraiment très lent dans les trois premiers matchs. Mais en même temps, ben c'est ça, c'était trois matchs sur la route. Le Canadien avait pas le dernier changement. Et Chiarot, en plus, jouait avec Petrie. Donc, et Jeff Petrie, ben c'est sûr que Claude Julien l'emploie contre les gros trios adverses.
En temps de glace, donc, ses adversaires, t'as pas les mêmes.
Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, dans les premiers matchs, ben ceux qui voyaient, c'était Austin Matthews, puis Sébastien Aho, puis Jack Eichel. Et puis là, ben Radio Sandbell, ben en jouant à domicile et de deux en le faisant jouer au sein du troisième duo, plutôt qu'avec Jeff Petrie, ben là, ça lui donne des confrontations quand même plus favorables.
Et il paraît mieux. Kulak paraît-il mieux avec Petrie?
Moi, j'aime beaucoup. Brett Kulak a été lynché sur la place publique par Claude Julien après une mauvaise performance.
Gros problèmes.
Gros problèmes. Ouais, c'est vrai que Kulak n'avait pas... on peut pas le méprendre avec Paul Coffey non plus.
Non.
Là. Mais je veux dire, je trouve qu'on a été très sévère, très vite avec Brett Kulak. Là, il a une bonne sortie de zone. Il est intelligent. Je veux dire... J'ai mal compris pourquoi ça a escaladé si vite le dossier Brett Kulak.
T'as seulement raison.
Mais Jean-François, je pense, dans une des discussions qu'on a eues la semaine passée, je sais pas si c'est toi qui soulevais le fait que, ou Guillaume, envers une recrue, t'avais été aussi étonné du ton employé par Claude Julien. Est-ce que je me trompe?
Ouais,
c'est l'un d'entre vous.
Ouais,
c'est toi, Guillaume?
Oui, c'est ça.
Répète ta pensée, puis je vais aller où je voulais aller après le commentaire de Guillaume.
À ce moment-là, on parlait de Nick Suzuki, donc que Claude Julien avait pas nécessairement défendu et avait au contraire...
Pas pris de gants blancs.
Ça n'a pas pris de gants blancs, puis souligner qu'il y avait un problème de niveau de compétition, d'intensité. Donc, c'est ça, effectivement.
Je prends juste ces deux petites situations-là, et je vous soumets ma pensée, c'est que le coach, là, il essaie d'arranger son club pour gagner des matchs, puis faire des séries. Puis je pense que c'est différent de l'an passé. L'an passé, on le savait qu'on avait, je dirais pas une année off, mais on savait que Kotkaniemi allait nous permettre, s'il y avait de l'espoir qui émanait de cette saison-là, pas faire les séries. Si ça paraissait bien au niveau de l'effort, puis je pense que c'est ça qui a été le résultat, c'était pas si mal. Moi, je pense que cette année, c'est peut-être la même situation, mais quand Suzuki et Fleury réussissent pas à percer l'alignement, tu peux pas juste utiliser les espoirs pour dire « Ah, c'est une année de développement. Mm. » C'est une année où tu dois gagner, puis je pense que le ton change en ce temps-là, Benoît, non?
Ouais, ben absolument, il est payé pour gagner, là,
Claude
Julien.
Puis je dis pas qu'il voulait pas gagner l'an passé, là, mais je pense que lui se dit peut-être qu'il y a... A-t-il plus d'outils pour gagner cette année que l'an passé?
Je pense pas.
Pas bien plus, mais attends un petit peu. Ben, tu dis ça.
Non.
Chiarot était content de sa venue. C'est supposé être une amélioration sur Ben.
Ouais.
Kotkaniemi, il y a une année de plus, puis une année recrue. Ouais. Tu sais, on pense que l'amélioration passe toujours par l'extérieur. Jonathan Drouin, ça c'est un autre cas, je vais en parler tantôt, mais Jonathan Drouin, quand il joue comme les 60 premiers matchs l'an passé, puis qu'il joue comme cette année, c'est pas mauvais, là.
Moi, le point, c'est que quand tu fais l'analyse, puis on a touché à ça un peu plus tôt, là, c'est pas le hockey d'octobre, novembre, décembre qui m'inquiète. Je suis pas inquiet de ça. C'est le hockey.
Mais c'était ça, je pensais.
C'est le hockey de février, mars, avril. C'est là que j'ai hâte de voir si le Canadien va être encore en mesure de suivre le rythme. Tu sais, je pense que le Canadien va être correct s'il n'y a pas trop de blessures jusqu'au mois de décembre. Après ça, on verra. C'est encore tôt dans la saison. Rapidement, Chiarot, là. Moi, je pense qu'on n'a pas vu encore ses vraies couleurs.
Je suis content que tu nous dises ça.
Je pense. Moi, je l'ai vu jouer. Écoute, j'avais Scheifele puis Connor dans mon pool. Non, non, mais Mario, j'avais Scheifele puis Kyle Connor dans mon pool. Fait que je peux te dire que dans le dernier droit, j'ai regardé Winnipeg souvent.
Oui. Par intérêt personnel.
Connor et Scheifele ont planté aussi solidement que les Jazz de Winnipeg, mais Chiarot a continué à bien performer. Il gardait les choses simples. Fait que... Moi, j'espère qu'il est juste en période d'adaptation. Et pour finir rapidement, Suzuki, là, il a compétitionné, il a travaillé au camp. Moi, j'aime ça, un entraîneur qui dit la vérité. Puis je pense que si tu as une rencontre avec lui, que ce soit avant ou après, là, tes commentaires comme ça, là, c'est bien parce qu'il parlait de l'effort.
Oui, puis c'est bien aussi dans la mesure où ces propos-là que l'autre Julien nous a dit. C'est s'il les a dit à Suzuki avant.
Après, ou faut, le lendemain
faut
matin.
Pas que Suzuki les apprenne en ouvrant la presse.
Le lendemain matin, si tu le rencontres, là.
Oui, c'est ça.
Là où moi, j'ai plus de difficultés, c'est quand on prend un espoir de premier plan et on le place longtemps dans les gradins. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce raisonnement-là. Suzuki flirte sur le quatrième trio. Là, on sait pas trop ce qui s'en vient. Fleury a déjà raté plusieurs matchs sur la galerie presse.
Bon,
trois.
Genre... non, mais t'as plusieurs, Jean-François.
Non, mais
on aurait pu penser que c'était 20, tu sais.
Mais je veux dire, il a connu un match difficile contre les Maple Leafs de Toronto. Puis même pas au complet difficile. Il y a eu des séquences difficiles au début du match. Il s'assoit au banc avec Shea Weber qui lui fait un cours de grand frère 101 sur ses erreurs sur la patinoire. Puis là, après ça, quelle est la conclusion? Il joue plus pendant trois matchs. J'en parlais avec Joël Bouchard qui me disait « faut pas s'en faire ». Il dit « pour reprendre les mots de Joël Bouchard, il a dit « c'est pas comme s'il avait été benché depuis l'administration Reagan ».
Donc, non, il a vraiment dit ça.
Oh, oui. Mais les gars, dans les mots de Joël Bouchard, mais j'ai parlé aussi à Carl Osner. Et là où je trouvais intéressant de parler à Carl Osner, c'est qu'il a vécu quelque chose de semblable au début de sa carrière, être laissé de côté, faire la navette entre la Ligue américaine et la LNH quand il avait 20 ans. Alors, une situation qui ressemble beaucoup à celle de Cale Fleury. Et ce qu'il m'a dit, et je le cite, c'est « à mon avis, t'apprends pas grand-chose en regardant ». Voilà.
Ben, c'est un excellent point. Puis Claude Julien, bon dans point. Son point de presse d'aujourd'hui, mardi, a ouvert à voix haute la possibilité d'hypothèse que Cale Fleury retourne jouer des matchs en bas.
Oui.
Et je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui peut être dramatique dans ça, parce que l'important, c'est la colonne des victoires et des défaites. Et parce que tu gères une équipe. Mais c'est sûr que dans les discussions, on va jaser des individus et parfois on n'est pas toujours d'accord avec l'orientation que leur utilisation prend. Mais je pense que et Suzuki et Fleury vont jouer des matchs à Laval. T'as pas l'impression, Jean-François, cette année? En tout cas, ça semble écrit dans le ciel.
Je crois que oui. Je crois que par défaut, ils vont finir par aller à Laval. Et le plus important est qu'ils jouent au hockey, qu'ils jouent des matchs de hockey, à mon avis. Mais moi,
sur une longue période, là, je te seconderais.
Mais là où j'ai un peu plus de problèmes, c'est que quand on nous dit que Cale Fleury est en dessous de Christian Follin dans la formation, moi, je peux pas m'imaginer ça, tout simplement.
Ben, c'est parce que c'est des joueurs tellement différents. Toi, tu le vois comme ça, mais je pense qu'on a vu une paire de défenses. Je sais, avez-vous d'autres points de vue avant que je me lance là-dedans?
Moi,
je vais répondre à Jean-François.
Vas-y, Ben.
Quand je regarde ça, je me dis, pourquoi qu'on a 8 défenseurs à Montréal? Parce que là, ça fait quoi? 4 matchs? 3 matchs?
Depuis, c'est ça.
Bon. Pourquoi t'as besoin de 8 défenseurs?
Pas besoin de 8 défenseurs. Mais là, il va par pair.
Je sais que le Rocket était sur la route là, dernièrement. Ils vont
il y a une gestion
Laval,
du balotage aussi, hein, Ben?
Non, mais moi, je vais cible Fleury, là.
OK, mais Fleury peut aller à Laval, lui. Il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi qu'on hésite.
Pourquoi qu'on en a 8? Si t'es pas pour le faire jouer.
Je sais pas pourquoi il est pas déjà à Laval.
Donc là, tu remets à Kulak, tu gardes Follin, t'as Riley qui t'a signé pour 2 ans. Si t'es pas pour le faire jouer, on va aller à Laval.
100% d'accord.
Ouais,
ça, tu dis, JF, toi aussi?
Ben, c'est ce que, dans la situation actuelle, oui, je rejoins.
Tant qu'il n'y a pas joué en haut. C'est pas comme si ton club école était.
Mais je trouve Fleury meilleur que Follin.
C'est Laval.
Tu peux le ramener dans 3 jours, si tu l'envoies à Laval.
C'est sûr que là, tu as une séquence de matchs à domicile. C'est une belle occasion de redonner une autre chance à Fleury, par contre. Je peux comprendre qu'il a été un peu jeté dans la gueule du loup en commençant en Caroline, à Toronto, sur la route contre des équipes contre de très bonnes attaques. Sauf que là, Claude Julien, je trouve, perd une belle occasion, par contre, de donner une autre chance à Fleury dans un environnement plus contrôlé qui sont les matchs à domicile.
Ouais, mais juste pour finir, Follin-Fleury, voyez-vous, Fleury va devenir, je pense, un bien meilleur défenseur que Follin.
Je parle
dans 5 ans quand on va parler de Fleury.
Je suis d'accord avec toi, mais Fleury, là, présentement, en ce moment, si tu calcules que Follin est meilleur que lui pour t'aider en tant qu'organisation, là, pas nous autres, en voilà en bas, Fleury.
Encore une fois,
100% d'accord. Développer, laisse-les jouer au hockey.
Je sais pas pourquoi.
Ça va se faire, moi je pense que ça va se faire bientôt. C'est soit que tu le réintègres dans l'alignement puis en joues 4 sur 5 ou tu l'envoies à Laval progresser. Ça, c'est ma vision des choses. Moi, ma manchette à l'antichambre après le match contre Détroit, Suzuki est pas prêt. Il est pas prêt.
Ça saute aux yeux.
Puis le seul temps qu'il a touché à la rondelle samedi où je le sentais un peu plus en contrôle contre Saint-Louis, c'est en avantage numérique.
Oui.
Un joueur offensif de son âge, qui a eu une belle saison chez les juniors, là, lui, il faut qu'il touche à la rondelle. À 5 contre 5, il faut qu'il la contrôle, il faut qu'il fasse des passes, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il retrouve le goût d'avoir le goût de gérer la rondelle, que ce soit en avantage numérique ou à 5 contre 5. Moi, je pense qu'il n'est pas prêt. Pourquoi le garder? L'échantillon est pas grand.
Parce qu'on n'a pas grand monde pour le remplacer. Mais ça, c'est l'autre partie de l'histoire. Ouais, parce que dans le fond, on attend que Cousins soit rétabli. Sinon,
non. Non? Je suis d'accord, mais je veux dire, tu peux le garder encore 2 jours, 5 jours, 7 jours.
Ouais.
Après ça, là, s'il joue pas mieux, là, donne-lui l'opportunité d'aller jouer à Laval aussi. Qu'il aille dominer la Ligue américaine. Moi, j'ai passé 2 ans complets. J'ai terminé au 3e rang des marqueurs dans la Ligue américaine en 88, 89, 87, 88. Je me souviens plus de l'année, là. J'ai joué 13 ans dans la Ligue. J'ai eu beaucoup de blessures, tout ça, là, mais il reste que j'étais allé faire mon apprentissage 2 ans complets dans l'Américaine.
Mm-hmm.
Ça m'a jamais fait mal. Marc Bergevin a dit l'autre jour, que ce soit ici ou à l'Antichambre, je l'ai entendu, il dit, tu laisses jamais un gars assez longtemps, trop longtemps dans l'Américaine. Moi, je crois à ça. Tu sais, si t'envoies Suzuki dans 5 jours, ça veut pas dire que...
Ouais, t'es pas obligé de le renvoyer pour l'année.
Puis qu'il revient pas au mois de novembre, c'est au mois de décembre.
Hey, les gars, parenthèse, trouvez-vous Kotkaniemi meilleur cette année dans le court échantillon qu'on a?
Drouin paraît tellement bien que j'ai l'impression que tout autour finit par bien
Armia
aller,
aussi.
Hey, Joel Armia, oui. Je veux dire, il a l'air de Mario Lemieux là, en ce moment.
Donc, Kotkaniemi, est-ce que dans ce court échantillon 2019-2020, est-ce que ça ressemble à une bonne décision d'avoir gardé à Montréal toute l'année passée?
Guillaume?
Ah, ben oui, ça absolument. Par contre, il m'a pas encore convaincu, je pense, que progresser par rapport à l'an passé. Là, moi, je pense qu'il vraiment il bénéficie beaucoup
de ses deux partenaires.
Du rendement de ses ailiers qui, eux, ont pris une coche jusqu'ici. Tu sais, je pense que l'an passé, Kotkaniemi, quand ça allait bien, ouais. Il était capable vraiment de ressortir puis de faire des pièces de jeu que je pense aucun autre joueur dans cette équipe-là est capable de faire. On n'a pas beaucoup vu de ça encore jusqu'ici cette année. Donc, j'attends encore là, pour le jugement.
C'est un très faible échantillon, mais juste pour voir votre impression, parce qu'on a déjà des opinions sur les débuts de saison d'équipe et sur d'individus également.
Dans le fond, moi, je trouve que ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a marqué 2 buts sur la route.
Ouais.
Mais 2 buts où ce qui était très bien positionné, puis c'est les gars autour de lui qui ont fait le travail.
Ça non pas piano, lui là.
Qui a alimenté ses ailiers. Votre point est excellent, les gars. Moi, je vois la même chose que vous. Je vois 2 joueurs présentement qui font en sorte qu'il paraît quand même assez bien sur la glace. Et c'est pas le contraire. Habituellement, c'est le joueur de centre qui va distribuer rondelles, qui va faire bien paraître ses ailiers. Là, c'est pas ça. Moi, je trouve qu'il est pas fluide. Il n'y a pas de fluidité, j'en ai parlé la dernière fois, c'est parlé là. En nom de Mario, je trouve qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'explosion, il y a
ça
pas
glisse
beaucoup de
au niveau du patin.
Ça glisse au niveau du patin, pas de vitesse en zone centrale. L'an passé, il était fluide, il était allumé, il était alerte là, mais c'est pas grave, il a 19 ans là, je commence pas à l'enterrer là, il n'y a pas de drapeau jaune dans son cas.
Mais je veux juste creuser ton explication qu'on voit la même affaire, c'est le fun quand les mots nous font voir des images. Quand tu dis que là, il est moins fluide, veux-tu dire que ses jambes bougent moins
moins rapide.
Ouais.
Moins rapide, il explose pas en zone centrale. Il se fait toujours rejoindre par quelqu'un en zone centrale quand il veut partir.
Donc, c'est 3 premières enjambées, là. C'est 2-3 premières.
Le seul temps où je le trouve très efficace, c'est quand il est en vitesse. Quand il a le temps d'aller faire un petit cercle ou un petit demi-cercle, puis ça repart de l'autre côté, puis là, comme notre ami Piton Ruel nous disait, là, jump sur tes patins, mon petit gars, là. Ben là, il a le temps de jumper ses patins, là. Il jump sur ses patins, puis là, il reprend sa vitesse en zone centrale, il est correct. Mais quand il est obligé d'arrêter ou la rondelle arrive un petit peu trop tranquillement, là, puis là, faut qu'il reparte la machine, c'est plus dur. Mais ça, c'est le processus d'un jeune qui doit apprendre à bien jouer dans la ligue.
Puis qui apprend à jouer avec 20 livres de plus sur le dos aussi.
Pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai pas l'impression que l'union Drouin-Kotkaniemi va durer très longtemps dans le temps. Là. Je pense que Drouin va finir par retrouver Domi plus tôt que tard.
C'est pas ça que je lui souhaite, moi, en tout cas.
Mais ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est est-ce qu'on va faire tout le balado sans faire mention de la voix de Guillaume Lefrançois en ce moment? qu'est-ce qui se passe?
Est-ce grippé?
Non, ça fait quelques mois que ben, les pastilles aident beaucoup. Mais sur ton point sur Kotkaniemi et Drouin, l'autre chose qu'il faut se demander par rapport à ça, c'est pendant combien de temps est-ce qu'on va laisser Max Domi, qui a eu 72 points l'an passé, jouer avec Arturi Lehkonen et Jordan Wheel.
Et Jordan Wheel,
Les deux amis ont leur qualité, mais de jouer avec un joueur de 72 points, le joueur de 72 points, lui qui négocie, qui doit négocier son contrat à la fin de l'année, ça se peut que s'il voit Jonathan Drouin continuer à jouer comme ça, avec cette énergie-là, ça se peut qu'il se dise, ouais, ben, peut-être que nous deux ensemble, on pourrait être productifs, puis peut-être qu'à la fin de l'année, ça va me faire un beau contrat. Là.
Je pense que tout le monde va rejouer ensemble à bien des occasions de l'année, mais moi, en ce moment, avec ce que monte, puis même l'an passé, là, avec tout ce que j'aime de positif que Domi amène, moi, je trouve qu'il n'y a pas de vision de jeu. Je trouve que c'est comme un cheval de tir avec des œillères à chaque bord, puis il pense juste à se la refaufiler en avant, puis à lancer au filet, puis à saisir ses retours. Il faut qu'il soit dans le chenoute, en tabarouette pour se lever à la tête, pour regarder à qui il pourrait passer le puck. Fait que moi, quand tu parles de joueur de centre, puis quand je vois Kotkaniemi avec Drouin, puis je vous invite à être pas d'accord, là, et Armia qui a un excellent début de saison, en Kotkaniemi et Drouin, oubliez pas une affaire, l'an passé, c'est la première combinaison que Claude Julien a tenté. Le centre d'avenir, en principe, à moins que Suzuki, là, il a pas l'air d'être parti sur l'autoroute Grand V, là, le centre d'avenir, c'est Kotkaniemi. Mm-hmm. Fait que ton meilleur ailier potentiel, c'est Drouin. Ouais. Mais moi, je pense que le duo d'avenir, là, le Canadien va aller aussi loin les prochaines années que ces deux-là vont l'ensemble.
Peut-être. C'est mon avis. Écoute, ton point est très bon, Mario. Le problème que j'ai présentement, peut-être pas dans deux ans ou peut-être pas d'ici la fin de la saison, mais présentement, là, c'est que si Jonathan continue à performer comme ça, puis je pense qu'il faut peut-être qu'il regagne un peu la confiance de ses coéquipiers et de son entraîneur, mais là, j'ai du bon hockey. Moi, je pense, puis je regardais son temps de glace, un peu plus de 14 minutes contre Saint-Louis. Là, tu te dis, quand ça va bien aller, là, puis tu vas avoir besoin tu vas tirer de l'arrière, il faut que tu lui donnes l'opportunité de jouer un 16, 17, 18 minutes par match s'il continue à bien jouer comme ça. Puis là, après ça, j'ai fait l'exercice, je regarde le temps de jeu de Kotkaniemi. 1,29 en avantage numérique, il a joué 11,31 samedi.
Mm-hmm. Il va de la misère à suivre dans toutes les situations, je suis d'accord. Pourquoi? Il est encore en développement.
Il est en développement, puis je l'ai vu régulièrement depuis le début de la saison. C'est vrai que le Canadien était sur la route, mais je l'ai vu aussi au Centre Bell samedi. 20 secondes sur la glace, mise en jeu dans le territoire défensif. Bang, mon gars, tu s'en viens au banc. Il gagne pas de mise en jeu.
Ah oui,
là,
oui,
dans
oui.
un match serré, tu perds 3-2. Je l'ai vu une couple de fois. Puis même des fois, il l'enlève sur une mise en jeu offensive pour essayer de gagner une mise en jeu. Il est Drouin,
ça
là.
Fait
tu peux
des
pas le pénaliser.
Où tu dois
mais c'est
dois
là que je trouve que Drouin est pénalisé. Parce que si
c'est
je joue avec Domi, puis ça fonctionne. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais si ça fonctionne, mais au moins tu sais que Domi est capable de gagner sa mise en jeu. Il a remplacé Dano en fin de troisième période parce que Dano avait un peu plus de difficultés contre Riley. Mm-hmm. Fait que là, peut-être que tu peux lui donner ce temps de glace-là. Tu sais, là, j'ai Dano, là, j'envoie Domi, puis ça va bien. Là, j'ai deux lignes que je peux jouer beaucoup. Puis là, tu peux protéger ton troisième, quatrième trio.
Puis ça revient, j'ai l'impression que ça revient
à ce que
peu,
tu disais.
Ben, ça revient au problème qu'on soulevait au début de la saison, qu'il manquait un ailier droit de grand talent pour le top 6, qu'il n'y en a pas plus. Parce que là, Claude Julien a essayé de rééquilibrer ses trios, Drouin rendu sur le troisième, ce que nous appellerons le troisième trio pour les fins de l'exercice. Mais donc Drouin sur le troisième trio, sur le deuxième trio, là, il met Max Domi, répartit un peu ses attaquants de puissance. Si, comme je crois éventuellement, Domi va se retrouver avec Drouin, qui se ramasse de l'autre côté? Est-ce qu'on donne la promotion à Armia? Suzuki, de toute évidence, est pas aussi prêt qu'on pensait.
On verra après fête. S'il joue à Laval, s'il va, dans le fond, on devrait privilégier pour Suzuki, mais lorsqu'on aura complété l'évaluation de la phase 1 du camp, de la saison, c'est que Marc Bergevin disait à quel point il avait progressé depuis la Coupe Memorial. Mais là, il demande de grimper de deux marches, pas une. Là. Il a demandé de grimper direct dans la Ligue nationale, pas dans la Ligue américaine.
Passer directement du hockey junior, là, hockey junior canadien à Ligue nationale, c'est pas beaucoup de joueurs qui le font, à part les premiers, deuxième, troisième choix. Mais sinon, c'est plutôt rare. Chez le Canadien, Max Domi l'a fait, ça a bien été. Il a eu 52 points sa première année. Mais sinon, c'est quand même très rare. Même Nikita Kucherov, qu'on va voir ce soir, Kucherov est allé passer deux mois dans la Ligue américaine avant de faire la transition. C'est très, 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 très rare, ces joueurs-là qui font. Donc, c'est la preuve, c'est parce que c'est tout un step qu'il y a entre les deux ligues.
Ouais. Les gars, ça vous tente-tu de regarder ce qui se passe un peu ailleurs dans la Ligue nationale? De toute façon, je sais qu'on est surtout des amateurs de hockey en général et on aime ça, bien sûr, ce qui se passe avec le Canadien, mais il y a des débuts de saison qui retiennent l'attention dans le mauvais sens et dans le bon sens. Allons-y avec les équipes qui, par exemple, comme Colorado avec Nathan MacKinnon, un premier choix repêchage, Edmonton avec McDavid, un premier choix, puis je vais pas tous les défiler, il y en a plus qu'un dans ces équipes-là, ils ont été dans la cave assez longtemps. Buffalo avec Dallin Eichel, Caroline avec Zvezhnikov, qui est un numéro 2, on verra Toronto avec Matthews et compagnie, là. Il y a pas de conclusion à tirer dans leur début de saison, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est l'année du véritable changement de hiérarchie dans la Ligue nationale? Ces clubs qui ont si longtemps croupi dans les bas-fonds de la Ligue, sont-ils prêts à dominer la Ligue nationale? Puis des fois, là, quand ce changement-là arrive, on le voit pas venir dans notre saison. Ça arrive, bang, on l'a dans la face.
Ben, je pense que les Hurricanes, on pouvait le voir venir, l'Avalanche aussi. Je pense que c'est deux équipes qui ont commencé ce virage-là l'an passé. Mais les Sabres et les Oilers, eux, c'était moins prévisible. Les Oilers, je demeure très sceptique parce que je continue à avoir des réserves sur la profondeur de cette équipe-là, puis à quel point qu'un seul trio peut mm-hmm. transporter.
La renaissance de James Neal, combien de temps ça va durer?
Ben c'est ça,
comment les équipes vont-ils jouer contre ces gars-là?
Ben c'est ça. Puis même si ça dure la renaissance de James Neal, ça reste qu'il y a des problèmes derrière ça.
T'es pas sûr que ça va durer.
Il manque profondeur derrière ça. Tandis qu'à Buffalo, là, il y a peut-être quelque chose. On a fait beaucoup de changements en défense depuis, disons, la deuxième moitié de saison l'an dernier. On a amené beaucoup de 109. On a une défense qui est très, très mobile.
Il y en a du jeune talent, là.
Ils ont beaucoup de jeunes talents, tout ça. C'est beaucoup de défenseurs habiles en relance, tout ça. Puis, quand tu fais la passe à Jack Eichel en avant, puis à Jeff Skinner, c'est ça. T'as une bonne combinaison quand même pour générer de l'attaque. Donc, les Sabres, j'y crois un peu plus. Les Oilers, un peu moins.
Ouais, je rejoins entièrement Guillaume pour l'évaluation. Ça fait 5-6 matchs. Là, on le disait un peu plus tôt. Les Oilers, ils mentionnaient la profondeur. Dreisaitl et McDavid, on s'entend. Ils jouent avec Zach Cassian en ce moment, je veux dire. Sur le deuxième trio, c'est Thomas Hurko qui est avec Nugent Hopkins et James Neal qui va durer combien de temps, James Neal? Après ça, Juhar Kaira, Riley Sheehan, Josh Archibald, je veux dire. On regarde la formation des Oilers d'Edmonton. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer que Thomas Hurko va être une révélation.
Malgré tout le respect qu'on a pour Dave Tippett.
Non, je suis d'accord. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a déjà un changement au niveau de l'identité de ces clubs-là. Je pourrais rajouter Philadelphie. Moi, Philadelphie, Buffalo et Edmonton, je vois un changement d'identité. Une façon complètement différente de se comporter à ce qu'on a vu l'an passé, ou même, je te dirais, on peut reculer 2-3 ans avec ces clubs-là, que ce soit Housley à Buffalo, Balsma, tous les entraîneurs qui sont passés à Edmonton, Axtall. Tu vois là que c'est ça, faut que tu changes. Faut que tu changes la façon que tes gars, présentement, pensaient dans le passé. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de changer. Ils ont perdu, tu sais, ils perdent des matchs, ils ont perdu un match à Edmonton. 3-1. Pas 8-2, là.
Il ne faut plus que ça soit acceptable. Je pense que David a eu gros à... Tu sais, par son attitude, il a commencé à être plus marabout l'an passé dans l'environnement des Oilers d'Edmonton. Pas pour être désagréable, je pense, pour faire sentir à tout le monde que c'est pas acceptable de perdre.
Buffalo, c'est la même chose. J'ai déjà vu un changement dans le système de jeu, de la façon que les gars se comportent. C'est la même chose avec Philadelphie. Encore là, l'échantillon est pas gros, là, mais si t'amènes tes joueurs à avoir un comportement différent, puis à penser, oui, à gagner des matchs, mais à penser à l'équipe, parce que je voyais pas ça avec ces clubs-là, là, vraiment, je pense que tu peux avoir une chance de gagner. Là, je regarde Toronto, je regarde Tampa, là. C'est des machines de hockey. Babcock, on le considère comme un des meilleurs coachs de la Ligue. John Cooper aussi a de très bonne réputation. Il est pas capable de faire jouer son club quand ça compte. Ils sont pas capables de faire jouer leur club quand ça compte. Moi, je trouve ça inacceptable. C'est ça le changement d'identité.
Il y a un problème potentiel.
Là, c'est pas s'ils vont faire des séries, Toronto, t'aimes pas.
Non, moi, c'est en série qu'ils vont
faire. Ils vont les faire.
Là.
C'est comme Tampa Bay. Tu commences là. Moi, janvier, février, mars, là. Faut que t'aies gagné les games de 3-2.
Mais t'es
comme
pas capable.
Comme Washington
Toronto.
Ont fait. Ovechkin, je l'ai vu, là. Raccourcir les présences, bloquer des tirs. Ils faisaient des choses quand ils ont gagné la Coupe qu'ils avaient jamais fait. Mais c'est ça, faut que t'aimes pas comprendre. Et c'est ça, faut que Toronto comprenne. Là, je le vois tranquillement avec Edmonton, Buffalo, Philadelphie. Combien ça va durer, je sais pas. Parce que toujours des petits hockey durant la saison. Là,
trois clubs avec un nouveau coach.
Mon choix pour aller en finale dans l'Ouest a été l'Avalanche Colorado. Là, ils ont un début de saison qui les fait bien paraître. Mais...
Non, qui te fait bien paraître.
Non, mais juste moi. mais je dois dire que je me suis appuyé aussi sur les observations de Jonathan Toews. Jonathan Toews a observé toutes les équipes dans l'Ouest en est venu à la conclusion, puis j'avais un penchant très, très favorable pour Colorado, et lui a dit que c'était probablement l'année de Colorado. Puis Toews les voit jouer plus souvent en détail que moi. Et alors, c'est une opinion qui a eu beaucoup d'impact sur moi. Les gars, si le Canadien avait le début de saison des Devils du New Jersey à 0-4-2, quels seraient les sujets de conversation en ce moment?
Claude Julien. Certainement Claude Julien, oui.
Okay. Non, mais c'est l'affiche des Devils. Est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir ou qui va changer? Ils ont quand même beaucoup. Quand tu regardes l'alignement sur papier, c'est pas une équipe qui devrait pas avoir remporté de match encore.
Mais en même temps, avec la quantité de changements qui ont été faits, c'est beaucoup de choses à tout mettre ensemble, à tout intégrer. Là, tu parles de Jack Hughes qui arrive comme recrue, tu parles de Piqué Subban et Wayne Simmonds qui arrivent comme vétérans de l'extérieur. Nikita Gusev, mm-hmm. qui a sûrement un très beau potentiel, qui a fait de belles choses en KHL. Lui, il arrive non seulement dans une nouvelle équipe, mais dans une nouvelle ligue aussi. Lui, ouais, arrive de la KHL directement, jamais joué dans la Ligue nationale. Il arrive ici. Alors, ça fait beaucoup d'éléments importants.
Hey, ça fait deux matchs qui échappent, Guillaume. Ils mènent 4-1, ils se font, ouais, rattraper. Ils mènent 4-0, ils se font rattraper.
Oui.
C'est l'effet Piqué-Souban. Pourtant, Piqué est à moins 1, même si l'équipe a un différentiel de moins 16.
Hey, moi, j'ai choisi Nashville pour gagner la coupe. Oui. Parce que Piqué est parti.
Ben, l'aspect positif, c'est qu'avec...
Wayne, un statement.
C'est un statement.
Oh oui, c'est sûr. Et il se plaît de le rappeler avec un gros sourire.
Oh oui. Il y a deux statistiques chez les Devils du New Jersey que je crois, peuvent expliquer ce qui se passe en ce moment. Le désavantage numérique, sont 30e de la Ligue avec...
C'est encore pire que le Canadien, ça.
Avec, tenez-vous bien, 57,1% d'efficacité. Et l'avantage numérique est 0 en 18.
Ça aussi, c'est pire que le Canadien.
Alors, là, j'en profite pendant que Benoît est en studio, mais quand et l'avantage numérique et le désavantage numérique sont parmi les pires de la Ligue, est-ce que c'est les joueurs ou le coach? Hein?
Ouais. Je sur la Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Le problème de Jersey présentement, c'est qu'on fonde beaucoup d'espoir sur deux jeunes joueurs qui vont peut-être transformer l'organisation, mais dans le futur, pas là. Ishii s'est blessé dernièrement. Je pense qu'il a quitté le match, le dernier match qu'ils ont joué. Mais Jack Hughes, on fonde beaucoup d'espoir, mais c'est beaucoup de responsabilité pour ces deux gars-là qui jouent en avantage numérique, qui jouent peut-être moins en désavantage numérique. Mais je suis d'accord avec toi que les entraîneurs, il faut qu'ils fassent le travail. Après ça, c'est l'exécution des joueurs quand ils sautent sur la glace. Mais quand Travis et Jack est ton troisième joueur de centre, puis Schneider qui n'avait pas gagné un match là, jusqu'à l'an passé, il y a plusieurs moyens de temps, là, ben, tu te demandes pourquoi ça va mal. T'sais. Moi, je n'aime pas leur profondeur. Ils ont des joueurs de talent. Puis il y a des jeunes joueurs qui sont peut-être pas prêts à te faire gagner tout de suite, mais qui vont être bons dans 2-3 ans. Il y a un gros problème à Jersey. Là. L'échelle...
Il y a comme un gap
un
peu entre...
Il y a un gap trop gros, ouais, entre les plus vieux et les plus jeunes.
T'as Taylor Hall dans le milieu, finalement, qui est pris pour
traîner. Le reste, là, il n'y a pas grand-chose. Le cas n'est pas pire.
La bonne nouvelle, si jamais vous êtes de ceux qui voudriez que le Canadien fasse une offre à Taylor Hall sur le marché des joueurs autonomes l'été prochain, c'est que s'il voit que c'est tout croche, peut-être qu'il ne voudra pas rester dans cette équipe-là. Il pourrait devenir l'un des gros noms disponibles. Non, Taylor Hall, c'est un gars qui vous allume. Il pourrait devenir le gros nom du prochain été. Je sais qu'on en parle souvent pour rien parce que les gars viennent pas au Canada, mais peut-être que...
Ben lui, en tout cas, lui, c'est un Canadien, puis il a joué à Edmonton, donc bon, il
est... Il a peut-être lieu de décider.
Il a sa composure, peut-être aussi qu'il
l'aimez-vous s'éloigner. Comme joueur? L'aimez-vous comme joueur?
Je l'aime bien comme joueur. Il y a une chose, par contre, moi, qui me fait réfléchir à son sujet. Effectivement, il s'est pas encore empressé à signer de prolongation de contrat avec les Devils. Il a l'air de vouloir être patient. Il est représenté par Darren Ferris, qui est le même agent de Mitch Marner et l'agent qui a eu quelques négociations compliquées. Alors ça, d'une part, c'est prévisible qu'ils attendent. L'autre chose, c'est qu'avec le début de saison des Devils, est-ce que John Hine pourrait sauter éventuellement? Mm-hmm. Peut-être. Et si t'es Taylor Hall, ben c'est un facteur aussi dont tu dois tenir compte parce que tu veux savoir ça va être qui le remplaçant. Et de l'autre côté, si t'es les Devils du New Jersey et que t'es pour faire un changement d'entraîneur, ben t'as peut-être intérêt à en choisir un qui va augmenter tes chances de garder Taylor Hall. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent se jouer là.
Dans le cas de Taylor Hall, pour les équipes désireuses de lui offrir un contrat à très long terme, un autre facteur à considérer, je sais pas si on peut parler de tendance, parce qu'il a joué une seule saison complète en carrière, une seule saison, 82 matchs. Là, vite fait, je vous donne les nombres de matchs qu'il a joué par saison. Il y a peut-être une saison de conflit de travail là-dedans, là, mais 65-61, 45-75, 53-82, ça c'est en 2015-16, 72-76, donc une vague pas pire, 82-72-76, l'an passé 33, et on verra cette année. Puis juste pour compléter sur les Devils, les gars, dans les éléments qui peuvent expliquer leur début de saison, Schneider est à 4,09 moyenne de buts alloués, 8,76 d'efficacité, son adjoint est à 4,90 et 8,21 de pourcentage d'efficacité.
Taylor Hall, là, c'est dans la nouvelle Ligue nationale, parce que moi, je trouve qu'elle se transforme toujours là, avec la vitesse. Là. Écoute, le club qui va mettre la main sur Taylor Hall, qui est prêt à gagner, puis lui, probablement, c'est ça qu'il va se dire aussi. Là, c'est bien beau l'argent, mais peut-être qu'un jour, il va vouloir gagner aussi. Là, gagner sur une base régulière. C'est un marchand de vitesse. Là. C'est pas un McKinnon, c'est pas un McDavid, mais quand il accélère en plein centre de la glace, il peut battre n'importe qui. Là.
Les gars, le Canadien dispute deux matchs cette semaine contre Minnesota et contre Tampa Bay. Et je vous demande, quand on va se retrouver pour l'épisode numéro 6, il y aura combien de plus au classement pour le Canadien, s'il y en a?
Oui, il va y en avoir certains. Moi, je dirais deux.
Deux? Ouais. Guillaume Lefrançois de la presse. Jean-François Tremblay, combien?
Si le Canadien perd contre le Wild du Minnesota,
c'est ces deux points-là que je vois.
Je reviens pas vendredi.
Je sais pas quoi dire.
Contre Tampa, vois-tu un point au menu?
Je vois un point contre Tampa, donc
un
trois.
Un petit point. Benoît Brunet?
Moi, je vais à deux.
Deux? Ils vont ramasser quand contre le Wild? Je vais à trois. Ouh. Un petit point contre Tampa Bay, puis deux gros points contre Minnesota. C'était Sortie de zone. Bonne semaine, les gars.
Merci.
J'ai bien hâte de vous retrouver vendredi.
Merci.
Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que nous sommes disponibles maintenant. Jean-François, aide-moi sur Google. Ça, c'est des gens qui connaissent ça.
Google Balado et Apple Podcast.
Merci, JF, mon co-animateur. Ciao, les boys. Bonne semaine.